Chapitre 6. Lundi 7 décembre, la nuit. Simone est déjà réveillée lorsque le téléphone posé sur la table de chevet d'Éric se met à sonner. Éric marmonne quelque chose au sujet de ballons et de serpentins, prend le téléphone et se précipite hors de la chambre. Il referme la porte derrière lui avant de répondre. La voix qui lui parvient à travers le mur lui semble réceptive, presque tendre. Après un moment, Éric se glisse dans la chambre et elle lui demande qui c'était.
Un policier. Un inspecteur, je n'ai pas retenu son nom, répond Éric en expliquant qu'il doit se rendre à l'hôpital Karolinska.
Elle regarde le réveil et referme les yeux.
Dors maintenant, Zixan, chuchote-t-il.
Puis, il sort de la pièce. La chemise de nuit s'est tire-bouchonnée autour de son corps et lui serre le sein gauche. Elle la range, se retourne sur le côté, puis reste immobile dans le lit et écoute les mouvements d'Éric. Il s'habille, fouille le dressing à la recherche de quelque chose, se sert du chausse-pied, quitte l'appartement et ferme la porte à clé derrière lui. Peu après, elle entend la porte de la rue se refermer. Longtemps, elle essaie de se rendormir, sans succès. Éric n'avait pas l'air de parler à un policier. Le ton était trop détendu. Peut-être était-il simplement fatigué. Elle se lève pour faire pipi, boit un peu de yaourt liquide, et se recouche. Puis elle se met à repenser à ce qui s'est passé il y a 10 ans, et sait qu'elle n'arrivera plus à se rendormir. Elle reste allongée encore une demi-heure, puis se redresse, allume la lampe de chevet, prend le téléphone, regarde l'écran, et retrouve le dernier appel reçu. Elle sait qu'elle devrait éteindre la lumière et dormir. Pourtant, elle compose le numéro. Ça sonne 3 fois. Ensuite, il y a un petit clic, et elle entend une femme rire. Un peu à l'écart du téléphone.
Arrête, Éric,
dit la femme joyeusement. Puis la voix est soudain tout près.
Oui, Daniela? Allô?
Simone entend la femme patienter un petit instant et dire ensuite
Aloha
d'une voix vaguement interrogatrice avant d'interrompre la conversation. Simone reste avec le téléphone dans la main. Elle s'efforce de comprendre pourquoi Éric a dit que c'était la police, un policier qui avait téléphoné. Elle veut trouver une explication raisonnable, mais ne peut s'empêcher de revenir 10 ans en arrière, quand elle avait soudain réalisé qu'Éric la trompait, qu'il lui mentait de manière éhontée. C'était le jour où Éric avait annoncé qu'il renonçait définitivement à l'hypnose. Simone se souvient qu'exceptionnellement ce jour-là, elle n'était pas à sa galerie qui venait d'ouvrir. Peut-être que Benjamin n'avait pas école, peut-être qu'elle avait pris sa journée. En tout cas, ce jour-là, elle était assise à la table de la cuisine de la maison de Gerfella et parcourait le courrier quand elle avait aperçu une enveloppe bleu clair adressée à Éric. L'expéditeur était un simple prénom, Maya. Il y a des moments où l'on sent au plus profond de soi que quelque chose ne va pas. Peut-être avait-elle développé une peur de la trahison après avoir vu son père trompé. Lui qui avait fait toute sa carrière dans la police, et avait même été décoré pour un travail d'investigation exceptionnel, avait mis de nombreuses années à découvrir les infidélités de plus en plus flagrantes de sa femme. Elle se souvient comment elle s'était simplement cachée le soir de cette terrible dispute entre ses parents qui avait amené sa mère à quitter la famille. L'homme qu'elle fréquentait depuis quelques années était un voisin, un pré-retraité alcoolique qui avait enregistré à une époque quelques disques de musique de danse avec un orchestre. Elle s'était installée avec lui dans un appartement de Fuengirola en Espagne, sur la Costa del Sol. Simone et son père avaient repris leur vie, serré les dents, et constaté qu'en fin de compte, ils n'avaient toujours été que 2 dans la famille. Elle avait grandi et hérité de sa mère la même peau couverte de taches de rousseur et les mêmes cheveux blonds vénitiens bouclés. Mais à la différence de sa mère, Simone avait une bouche riante. Éric le lui avait dit un jour. Et elle aimait cette description. Jeune, Simone avait toujours voulu être artiste, mais elle avait renoncé, n'avait pas vraiment osé. Son père, Kenneth, la persuada de se former à un vrai métier, moins aléatoire. Ils parvinrent à un compromis. Elle se mit à étudier l'histoire de l'art, se trouva étonnamment à l'aise parmi les étudiants et écrivit plusieurs essais sur l'artiste suédois Ola Billgren. elle rencontra Eric à une fête étudiante. Il l'avait approchée pour la féliciter, pensant que c'était elle qui avait passé son doctorat. Comprenant son erreur, il avait rougi, s'était excusé et avait voulu s'éclipser. Mais quelque chose, outre sa grande taille et sa belle allure, ses manières délicates peut-être, l'avait amené à engager la conversation avec lui. Leur échange fut tout de suite intéressant et amusant, et ils parlèrent longtemps. Dès le lendemain, ils s'étaient retrouvés au cinéma pour voir Fanny et Alexandre d'Igmar Bergman. Simone était mariée à Eric depuis 8 ans, quand elle ouvrit avec des doigts tremblants l'enveloppe envoyée par Maya. 10 photos glissèrent sur la table de la cuisine. Elles n'étaient pas l'œuvre d'un photographe professionnel. Des gros plans flous d'un sein de femme, une bouche et un cou nu, une culotte vert pâle et des cheveux bruns bouclés. Sur une des photos, il y avait Eric. Il semblait étonné et heureux. Maya était une jolie femme, très jeune, avec des sourcils sombres et fournis. Elle avait une grande bouche sérieuse. Vêtue d'une simple culotte, elle était allongée dans un petit lit. Ses mèches noires se découpaient sur ses généreux seins blancs. Elle avait l'air comblée, le rouge aux joues. Elle a du mal à se rappeler ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle a su qu'elle était trompée. Pendant longtemps, il n'eut que du chagrin, un étrange vide qui creusait son ventre et la volonté d'éviter les pensées douloureuses. Pourtant, elle se souvient qu'elle ressentit d'abord de l'étonnement, un étonnement bête et brutal d'avoir été roulée par quelqu'un en qui elle avait une confiance aveugle. Puis vint la honte, suivie par la sensation désespérante d'infériorité, les crises de colère et la solitude. Simone est allongée dans le lit. Ses pensées tournent dans sa tête et se propulsent dans différentes directions, tout aussi douloureuses. Lentement, le jour se lève sur la ville. Elle somnole quelques minutes avant le retour d'Eric. Il essaie de ne pas faire de bruit, mais quand il s'assoit sur le lit, elle se réveille. Il lui dit qu'il va se doucher. Elle remarque qu'il a encore pris des cachets. Le cœur battant à tout rompre, elle lui demande le nom du policier qui a téléphoné cette nuit. Mais il ne répond pas et elle s'aperçoit qu'il s'est endormi au milieu de la conversation. Simone explique alors qu'elle a composé le numéro et que ce n'était pas un policier mais une femme en train de rigoler, une certaine Daniela qui avait répondu. Eric n'arrive pas à rester éveillé et se rendort. Elle crie, exige des explications, l'accuse d'avoir tout gâché alors qu'elle vient tout juste de lui redonner sa confiance. Elle est assise dans le lit et le regarde. Il n'a pas l'air de comprendre son indignation. Elle se dit qu'elle ne pourra pas supporter d'autres mensonges. Puis, elle prononce les mots auxquels elle a déjà pensé plusieurs fois, mais qui lui semblent pourtant si éloignés, si douloureux et si tristes. Il vaudrait peut-être mieux qu'on se sépare. Simone sort de la chambre avec son oreiller et la couette. Elle entend le lit grincer derrière elle. Elle espère qu'il va la suivre, la réconforter et lui raconter ce qui s'est passé. Mais il reste dans le lit et elle se referme sur elle-même, dans la chambre d'amis. Elle pleure longtemps, puis elle se mouche. Elle s'allonge sur le canapé et tente de dormir, mais elle comprend qu'elle n'a pas le courage d'affronter sa famille ce matin-là. Elle se rend à la salle de bain, nettoie son visage, se brosse les dents, se maquille et s'habille. Constate que Benjamin dort encore, lui laisse un mot sur la table et sort de l'appartement. Elle prendra un petit déjeuner quelque part avant d'aller à la galerie. Elle reste longtemps à lire dans le café de Kungsträ Gordon, avant de pouvoir avaler sa tartine et son café. De l'autre côté de la vitre, une 10aine de personnes sont en train de préparer une espèce d'événement. Des tentes roses sont dressées devant la grande scène. La barrière anti-émeute est installée autour d'une petite rampe de lancement. Soudain, quelque chose tourne mal. Des étincelles giclent et un feu d'artifice est projeté dans l'air. Les hommes titubent en arrière en criant. La fusée explose en une lumière bleue transparente dans le ciel clair. La détonation résonne d'une façade à l'autre.